Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. La question s'est sans doute toujours posée. Elle a pris depuis quelques années une acuité plus criante encore avec le réchauffement climatique. Quelle planète allons-nous laisser aux générations futures? Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Eh bien, c'est la question que pose la pièce de théâtre dont nous allons parler aujourd'hui. Un texte éminemment contemporain publié en 2016 par la dramaturge britannique Lucy Kirkwood qui interroge avec une écriture teintée d'humour noir notre rapport au progrès, le temps qui passe et la douleur des illusions perdues. Un étrange huis clos qui oscille entre le tragique et la comédie, dans lequel le non-dit est peut-être encore plus parlant que ne le sont les mots. Sur scène, un trio d'acteurs chevronnés, Dominique Valadier, Cécile Brune, Frédéric Pierrot, à la mise en scène Éric Vignier, Les Enfants, la pièce est à l'affiche du Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 27 novembre, et vous m'en direz des nouvelles. Cécile Brune, Frédéric Pierrot et Éric Vignier sont avec nous. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors Éric Vignier, cette pièce, elle a été créée en 2017 à Londres, au Royal Court, puis à New York, à Broadway. C'est la première fois qu'elle est jouée à Paris. Lucy Kirkwood est une autrice dramatique que l'on connaît, il faut le dire, assez peu en France. Et pourtant, une autre de ses pièces est mise en scène en même temps actuellement, au 104, par Chloé Dabert, une pièce qui s'appelle Le Firmament. Hasard total ou signe que son écriture est décidément complètement de l'air du temps?
Je pense que c'est lié à la traduction, en fait. Il faut remercier l'Arche d'avoir traduit Lucy Kirkwood.
C'est Louise Bartlett, en l'occurrence, qui a traduit le texte en français.
Oui, voilà. Et donc, c'est une pièce qu'on a connue en France il y a 3 ans, à peu près. Et dès que je l'ai lue, moi, j'ai voulu la monter tout de suite.
Comment vous l'avez découvert, justement? Le texte est arrivé comme ça sur votre table de chevet et
oui.
Vous y avez plongé tout
non,
de suite?
Non, c'est beaucoup plus simple. C'est Stanislas Nordeck qui me l'a donné. On était en tournée en Chine avec Le Partage de Midi.
Oui.
Et puis, dans le voyage du retour, il m'a dit « Tiens, j'ai lu une pièce, je te la donne ». Je l'ai lue et en rentrant en France, j'ai décidé que j'allais la monter parce que je la trouvais contemporaine dans le sens où, justement, elle parlait des problèmes de notre société et de l'avenir. Et voilà, je trouvais que c'était une pièce absolument formidable.
Notamment avec les enjeux autour du nucléaire post-Fukushima qui est devenu un peu plus d'actualité, mais peut-être d'une façon un petit peu différente avec la guerre en Ukraine, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le regard que l'on porte sur le nucléaire, c'est peut-être un petit peu modifié, justement, depuis que le texte est sorti.
Je sais pas. Ce que je pense, c'est que la grande question philosophique de la pièce, c'est est-ce qu'on peut faire avec moins?
Voilà.
Et ça, c'est très intéressant parce que
c'est une question que l'on entend tous les jours, quoi. C'est-à-dire dans cette société de la fin de l'abondance, donc, pour paraphraser le président de la République.
Oui, mais c'est pas si mal comme question philosophique parce que si l'ensemble de la planète se préoccupait de cette question, on aurait peut-être moins de centrales atomiques, on aurait peut-être moins besoin d'énergie, on n'a peut-être pas besoin d'autant de vie. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont posées par la pièce et qui ne sont pas des petites réflexions philosophiques.
Donc ce sont des réflexions qui étaient déjà dans vos têtes, Frédéric Pierrot et Cécile Brune, avant qu'on vous propose de jouer dans cette pièce. C'est effectivement des thématiques dont on parle tout le temps dans l'actualité. Cécile Brune?
Oui, pas spécialement, particulièrement dans ma tête, mais enfin, ça nous entoure de toute façon tous les jours, donc... Et ce que vous disiez, effectivement, tout de suite, là, sur la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'avec ça a pris tout d'un coup, effectivement, pour moi, en tout cas, une tournure, comme on était en train de répéter, en plus, et qu'il était question, chaque soir, de Zaporijjia, de la centrale, occupée par les Russes, etc., etc., d'éventuels accidents qui pourraient survenir, il est certain que ça... C'était marquant, quoi.
Voilà, en plus, Frédéric Pierrot, il y a des moments où il y a des coupures d'électricité. On sent que le réseau électrique dans la pièce est parfois un petit peu défaillant. Là aussi, les spectateurs du Théâtre de l'Atelier, dans la salle, ils doivent se dire « Oh là là, peut-être que dans 2-3 mois, là, quand il fera froid, quand on sera en plein hiver, on aura aussi ce genre de difficultés. » Nos auditeurs africains qui sont en Afrique, ils ont aussi des délestages. Et là,
oui.
Pour le coup, on est aussi vraiment dans une thématique très contemporaine.
Et non, moi, je suis persuadé que c'est même pas qu'on ferait bien d'y penser, c'est qu'on est... On est obligé d'y penser.
On est en plein dedans, quoi, le problème est là.
On est obligé d'y penser. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas même une décision politique. Les politiques sont très en retard. Moi, j'ai passé l'été à lire le rapport Meadows, qui date de 72, et la bande dessinée Le Monde sans fin de Jean Covici et Blin. Bon, vous croisez les deux, et vous avez un certain nombre de réponses, y compris sur le nucléaire. C'est-à-dire que Jean Covici et Blin, ils disent aujourd'hui, sachant que... Il n'y a pas d'autre solution.
Il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas s'en passer. C'est effectivement
donc, alors, évidemment, il faut qu'il soit sûr. Il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Mais enfin, on est en train de franchir des étapes par rapport à il y a 20 ans qui sont...
Oui, il y a une accélération de l'histoire qui est quand même assez impressionnante. Alors, sur scène, donc, il y a donc trois comédiens, Dominique Valadier, Cécile Brune et Frédéric Pierrot, trois comédiens chevronnés avec lesquels vous n'aviez jamais travaillé, je crois, Éric Vignier. Pourquoi eux ?
Parce qu'ils sont exceptionnels, déjà.
C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Mais on peut estimer qu'ils ne sont peut-être pas les seuls à être exceptionnels, quand même, parmi les comédiens français. Quoique.
Non, je trouve que c'est un trio admirable. Je trouve que c'est un trio qui se complète complètement.
Qu'est-ce que vous avez recherché, justement, en composant la distribution ?
Mais la différence. Je pense la différence. L'originalité et le monde de chaque acteur qui est présent sur le plateau. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Ce sont des acteurs extraordinaires qui ont une capacité de jouer ensemble tout à fait rare, au moment présent. Et je ne sais pas, c'est une alchimie très, très magique. Moi, je suis absolument ravi du spectacle et de voir ce que je vois tous les soirs dans leur travail à eux, en tout cas.
Alors, les enfants, pour reprendre le titre de la pièce, ce sont en fait des retraités. Alors, il y a un couple, Hazel et Robin, que vous incarnez, Cécile Brune et Frédéric Pierrot. Mais au départ, Robin n'est pas là hein, quand la pièce commence. Hazel est sur scène avec le troisième personnage, qui est Rose, incarné par Dominique Valadier. Et c'est Rose qui prononce la première phrase de la pièce. Cette première phrase, c'est une question en apparence extrêmement banale. Comment vont les enfants ? Sauf qu'elle se dit ça en se pinçant le nez, parce qu'elle saigne du nez, ce qui est déjà un élément qui instille comme ça un petit malaise déjà. Le spectateur comprend d'ailleurs assez vite que les deux femmes ne se sont pas vues depuis un certain temps déjà. Et là aussi malaise, parce qu'on se dit tout de suite que les retrouvailles ne sont pas particulièrement chaleureuses. Quoi. Le moins qu'on puisse dire, Cécile Brune, c'est que c'est un petit peu service minimum.
Oui, parce qu'elle est très... au moment où commence la pièce, effectivement, on va découvrir que elle pensait que ce personnage était mort, déjà. Donc, évidemment, elle est très surprise et puis même effrayée. Mais c'est le principe un petit peu de la pièce en général. C'est-à-dire que je crois d'ailleurs que c'est Brigitte Salino qui en a parlé très très bien, en parlant des Mikado, du jeu du
Brigitte
Mikado.
Brigitte Salino qui est la critique théâtre du journal
Le
Monde.
Et c'est vrai que c'est une pièce où les éléments se révèlent petit à petit et ça s'assemble à la fin. C'est-à-dire qu'on n'a que des questions. Et d'ailleurs, quand Rose arrive, elle dit « Comment vont les enfants ?» et Hazel ne répond pas tout de suite.
Non.
C'est-à-dire que ça met du temps avant qu'elle réponde. Et elle vient pour questionner, en fait, au départ. Et l'autre est très intrigué, mon personnage est très intrigué, parce que se dit « Mais comment se fait-il ? Pourquoi est-ce qu'elle vient ?» Elle n'annonce rien, elle dit rien, on sait qu'elle est allée aux États-Unis, qu'elle en est revenue. Mais voilà, donc ça démarre comme ça, et elles se font du thé. Mais c'est effectivement très sur la crête.
Oui, complètement. Et on se demande effectivement si ça va basculer dans un sens ou dans l'autre. Et le suspense, justement, autour de la raison qui conduit Rose à venir après tant d'années, eh bien, est levé bien plus loin dans la pièce.
Enfin, ça consiste quand même, et ça c'est normal pour Hazel, à raconter tout de même ce qui vient de se passer, pour donner la situation. Et il y a eu récemment une catastrophe nucléaire, et ils sont donc, lui, elle et son mari, ils sont restés dans les parages, en quittant leur ancienne maison, mais sont restés tout de même dans les parages. Voilà.
Et cette catastrophe nucléaire, elle fait évidemment penser à la catastrophe de Fukushima.
Les plants pruniers sauvages, les pommiers rouges comme le sang, le ver dévorant du rivage, on nourrit mon âme d'enfant. Oh, cerisiers en fleurs, hirondelles qui fendaient le ciel, mois d'avril qui troublait mon cœur, de ta fièvre mêlée de miel. J'ai vécu sans le savoir, plus riche qu'un roi. J'ai connu sans de printemps à Fukushima. Il y en eut de très doux, il y en eut de violents. Printemps amer, souvenez-vous, printemps frileux de temps en temps. Il y en eut de terribles, brume de l'aube de la haine. Midi qu'on croyait invincible sur la cime du mont Riozen. Me voici, me voyez-vous plus riche qu'un roi? J'ai connu cent de printemps à Fukushima.
Fukushima, la voix de Zedvan dans VMDN sur RFI. Et je le disais, on pense forcément à la catastrophe japonaise quand on découvre le destin de ce couple que forment Hazel et Robin. Frédéric Pierrot, ce sont des retraités. Hein. Ils vivent au bord de la mer. Ils vivent près d'une centrale nucléaire et ils ont même travaillé dans cette centrale avant l'accident. La centrale en question ressemble vraiment à celle de Fukushima. Elle était victime d'un tremblement de terre. Puis ensuite, il y a eu un tsunami. Le texte a été écrit en 2016. On est donc 5 ans après la catastrophe qui a frappé le Japon. Vous avez Fukushima en tête lorsque vous interprétez cette pièce?
Ah oui, absolument. Qui n'a pas en tête ces images effrayantes, en particulier du tsunami? Parce que, autant que je me souvienne, il n'y avait pas d'image réelle, enfin de la centrale, si ce n'est de loin.
Oui.
Mais ce tsunami, alors à chaque fois que tu dis dans la pièce... La mer bouillonnait. Moi, j'ai ça en tête. Et puis, j'ai aussi quand même d'autres images qui sont des images personnelles de... Puisque d'abord, le texte est anglais, donc on situe, là, pour le coup, la centrale nucléaire en Angleterre. Mais il se trouve que je viens d'une région où il y a des falaises, comme en Angleterre, qu'il est question de falaises qui s'effondrent et qu'il y a plusieurs centrales nucléaires dans ma région d'origine, dans le pays de Caux. Donc, je pense aussi beaucoup à ça.
En Normandie.
Je pense aussi... Au Mont Saint-Michel, vous savez, dont les, là, le phénomène des marées, les marnages sont célèbres de la baie du Mont Saint-Michel. Et donc on imagine aussi, quand tu dis la mer s'est retirée à quelques kilomètres, mais là, c'était plus que d'habitude, plus que des kilomètres. Enfin, c'est assez effrayant d'imaginer ça, et puis tout d'un coup, cette masse arrivait.
Alors, ce couple vit effectivement en dehors de la zone d'exclusion, hein, donc on n'est pas quand même au cœur du problème, mais on n'en est vraiment pas loin. Alors, ils vivent avec un compteur qui mesure les radiations, l'électricité, je le disais tout à l'heure, est parfois défaillante, l'eau du robinet, on ne peut pas complètement lui faire confiance non plus. Pourtant, ils sont restés, ces deux-là. Pourquoi ils sont restés, Cécile Brune?
Alors, d'après ce que dit Hazel, si on en croit ce qu'elle dit, ils sont restés parce qu'ils ont voulu se lancer dans une petite exploitation bio.
Voilà. Enfin,
c'est ce qu'elle raconte à ça.
Donc ce sont des ingénieurs nucléaires, voilà, qui ont viré un peu écolo, quoi.
Voilà, qui sont devenus fermiers, d'ailleurs, c'est ce que dit Robin à un moment donné. Et lorsque Rose lui pose la question, elle lui dit, bah oui, quand on a fait ça, et puis, donc ils ont une étable, des vaches, etc.
Ils ont des toilettes sèches aussi, c'est un élément important dans l'humour qu'il peut y avoir dans ce texte. Et puis ils ont remplacé le vin par du jus de panais fermenté. Alors je ne sais pas si vous avez goûté, Frédéric Pierrot, mais dans la pièce c'est votre personnage qui en est friand.
Ce que nous buvons sur scène est un ersatz.
Ah bon, d'accord, ça, vous me rassurez.
C'est pas du vrai panais.
Bon, mais cette conversion écolo, justement, c'est une conversion contrainte ou forcée, ou ils y adhèrent vraiment, sincèrement et complètement?
Je pense qu'Hazel, elle y adhère complètement, puisque son personnage est très... voilà, elle
fait du yoga, enfin voilà.
Elle aime bien manger sainement, enfin c'est ce qu'elle dit, enfin, quand que manger sainement avec ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué. Mais, et puis elle est surtout... très en veille de ne pas vieillir trop vite, quoi. C'est un peu son obsession, c'est-à-dire que elle a envie de rester en forme le plus longtemps possible, et donc elle fait très attention à tout ça. Et puis surtout, je pense qu'elle est aussi dans un déni, c'est-à-dire qu'elle est à la fois, c'est assez positif, puis en même temps elle se cache énormément de choses, donc elle se rassure, en fait.
Voilà. Et Robin, Frédéric Pierrot, porte un regard un peu ironique, justement, sur la pratique du yoga, sur le côté un peu zen de sa compagne.
Oui, sans doute un peu. Mais je pense pas à ça. Non, il n'y a pas d'ironie, en tout cas, dans ma manière de voir les choses. Je pense qu'ils sont vraiment ensemble. Elle parle aussi à Zelle de loyauté à la Terre. Et ça, c'est un truc qui me touche. Je pense, on parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, des babouchkas de Svetlana Alexeïevitch dans la supplication, là, qui sont allés suppléer à un certain moment à des jeunes gens. Il y a une idée de ce qu'on doit faire vis-à-vis des plus jeunes, mais c'est aussi la loyauté à la terre, je crois. C'est difficile d'abandonner, je crois que ça a été le cas aussi au Japon, pour certains paysans qui habitaient dans la zone d'exclusion, d'abandonner tout ça. Donc, y a pas...
Donc lui, il est là, il s'occupe des vaches.
Il fait ce qu'il peut, mais je pense qu'ils sont sincèrement tous les deux embarqués dans un monde qui n'est évidemment plus du tout le même et auquel il faut s'adapter. Donc on peut avoir de l'ironie parce qu'il faut bien rire de tout, mais enfin, surtout quand tout est foutu.
Voilà, de risquer d'en pleurer, comme disait
voilà,
à peu près.
C'est,
à peu
pas, près c'est pas plus méchant que ça.
Voilà, premier extrait de la pièce.
Rose, oui. Je commence à avoir de la barbe, tu sais. Ce matin, j'ai trouvé deux poils noirs sur mon menton. Et je les ai regardés longuement. Et j'ai essayé de me convaincre que c'est naturel, chimique. C'est juste l'âge, tu vois, juste la baisse d'œstrogène. Parce que tu sais, je ne supporte pas les gens de notre âge qui essaient d'avoir l'air encore jeunes. Et puis tu les vois, ces femmes dans le journal, avec des têtes d'œufs toutes lisses, qui font comme si, alors qu'au contraire, c'est comme un hurlement, je suis vieille, et ça me fait peur. Et parce que ça ne me fait pas peur, alors... Et puis je me suis dit non. Non. Parce que c'est comme ça que ça commence, tu sais, la longue descente jusqu'au cercueil. Ça commence avec deux poils noirs sur le menton que tu laisses en liberté et tu n'en sais rien. Mais là, à cet instant précis, tu as perdu. Tu as baissé la garde et l'ennemi est entré, tu vois? Oui. Alors je me suis attaqué à ces poils. Je les ai attaqués sans pitié, avec une pince épilée. Tu ne peux pas t'imaginer le triomphe que ça a été.
Des petits-enfants?
Quoi?
Tu as des petits-enfants?
Oh oui, oui.
Ah, sa grand-mère, c'est dingue.
Rose.
J'en viens pas.
Rose, je suis désolée, je me sens un peu, je devrais peut-être boire un verre d'eau.
Là encore, on sent le malaise rien qu'avec, alors je ne sais pas comment vous appelez ça, nous en radio, on appelle ça une petite virgule musicale, hein, c'est très très court, et qui passe comme ça, au plein milieu de la conversation, à plusieurs reprises dans le spectacle, il y a cette ponctuation, là, on pourrait presque dire un ange passe, quoi. C'est un petit peu ça l'idée, Éric Vignier.
Ben c'est pas de, on n'est pas dans un temps réaliste, on est au théâtre, donc en fait c'est comme des propositions de jeu. C'est un terrain de jeu un peu, c'est-à-dire ça s'appelle les enfants aussi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de comme ça, de petites séquences qui sont mises les unes à côté des autres, et finalement le spectateur fait son montage lui-même, et à la fin il s'est projeté dans quelque chose qui lui est aussi très personnel.
Mais comment vous avez décidé justement des moments où passent justement les anges au milieu de la conversation? Parce qu'on a un peu l'impression qu'ils arrivent à un endroit extrêmement précis du texte pour mettre en valeur les mots qui immédiatement précèdent.
Est-ce qu'elle les
le
a écrits? Elle a écrit.
Elle a écrit. Ah oui, d'accord.
Écrit à chaque fois.
Donc c'est pas un
ah,
choix.
Oui. Non, non.
Mais
alors,
enfin, si, une pause, ça aurait pu être un silence.
Oui,
ça aurait pu être un silence.
Voilà.
Alors pourquoi
musique,
voilà, pourquoi pas le silence, alors, pour le coup, Éric Vignier?
Mais je pensais, parce qu'il faut que le metteur en scène fasse un peu quelque chose. De temps en temps, s'il peut intervenir, parce que là, évidemment, c'est un travail beaucoup d'acteurs sur un plateau. Donc ma proposition, elle est liée à l'espace que je propose. Et puis à faire justement des petites séquences comme ça pour déréaliser la chose et l'emmener un peu ailleurs, en disant voilà, bon, on pourrait faire ça, mais on pourrait faire aussi autrement.
Et ça concerne surtout, alors je parle sous votre contrôle, Cécile Brune, surtout votre personnage, surtout le personnage de Hazel, quoi. Ces moments-là arrivent en particulier souvent lorsqu'il est question de la fille, lorsqu'il est question de Lorraine,
ça,
la fille aînée du
couple. Ils arrivent en tout cas à chaque fois quand il y a des bascules, quand on est sur quelque chose, puis tout d'un coup, on arrive dans autre chose. C'est pas forcément lié à Hazel d'ailleurs, mais effectivement, le personnage de leur fille, Lorraine, étant très mystérieux aussi.
Oui. On sent qu'il y a une fêlure, on sent
mystère.
Tout de suite qu'il y a quelque chose de cassé, voilà. De grave, de tragique autour du personnage de Lorraine, dont on parle souvent mais qu'on ne voit jamais, hein, sur scène évidemment. Alors Éric Vignier, vous parliez de votre proposition de metteur en scène dans un instant, il y a un instant, en expliquant justement que votre proposition consistait surtout à investir l'espace. Et c'est vrai que je voudrais qu'on dise quelques mots du décor de cette pièce, parce que lui aussi, il est très étrange. Il n'y a pas de table,
non.
Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fauteuil. On a presque l'impression, d'ailleurs, il y a des marches, on a presque l'impression qu'on est entre deux mondes.
Ben, déjà, c'est un bout de décor qui appartient à un autre spectacle.
Donc, en fait,
c'est du recyclage.
Ah, c'est complètement du recyclage. Mais la question
pour le coup, on est dans l'écologie, là aussi.
Non, mais est-ce qu'on peut faire avec moins, par exemple, c'est aussi dans l'économie du spectacle. Donc, quand j'ai lu cette pièce, immédiatement est arrivé ce décor que j'avais fait pour une pièce de Rémi Devos avec Michel Escaut et Catherine Jacob qui s'appelait « Jusqu'à ce que la mort nous sépare », qui était un décor matriciel, comme ça, un peu inspiré des années 80. Donc, c'est l'histoire d'un garçon qui retournait dans la maison de sa mère, mais qui retournait dans sa mère, en fait. Et donc, voilà, c'était travailler avec des éléments des années un peu 70, de cette culture-là. Et donc, quand j'ai lu Les Enfants, bon, c'est cette génération-là. Donc, je me suis dit, tiens, il reste quelque chose de ça. Et après, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir dans le théâtre vide de l'atelier, c'est dans la cage de cette ville, donc on voit que c'est un théâtre un peu désaffecté, comme ça.
Oui.
Et dans cette désaffection, sans électricité, parce qu'ils ont des coupures d'électricité tout le temps, bon, il y a comme un bout de décor, comme ça, qui a dû appartenir à quelque chose, qui a dû être actif à un moment donné, mais il a éclaté comme la centrale, il a éclaté comme la maison, il a éclaté comme tout ça. Et donc, on peut se projeter dessus et en même temps se raconter un peu l'histoire qu'on a envie de se raconter.
Ouais. Alors, on est dans un huis clos, on ne sait pas exactement où l'on est. Alors, vous disiez plutôt en Angleterre, à cause, évidemment, de la dramaturge, Frédéric Pierrot. On passe sans cesse du rire au malaise. Alors, les moments de rire sont assez fugaces quand même, il ne faut pas exagérer, mais on sourit et on rit. Il y a cet humour noir un peu grinçant. Est-ce que vous diriez que c'est vraiment une pièce britannique, Frédéric Pierrot?
Oui, moi, je trouve. Je ne suis pas un spécialiste du théâtre britannique, mais ce que je reconnais dans la pièce, c'est cette espèce de tentative de tissage entre une trivialité et la gravité.
Voilà, entre le quotidien et les grands problèmes de la planète et de l'humanité.
Des ruptures très grandes, des ruptures de ton soudaines, des blagues à la limite de l'absurde, enfin des alors, ça fait rire ou pas, mais ça peut être effectivement un rire grinçant, parce qu'on se demande un peu à quoi on rit. Hein. Mais c'est assez britannique comme humour, je trouve.
Cécile Bruyne.
Je dirais aussi, il y a une chose que je trouve formidable, c'est qu'il n'y a jamais de leçon de morale. Il n'y a jamais de jugement de l'auteur. Et ça, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, chez certains auteurs britanniques, c'est ce que j'adore, c'est qu'elle ne nous fait pas la leçon, alors qu'elle pourrait très bien, avec un thème comme celui-là. Elle laisse vivre ses personnages, qui ne sont jamais, c'est très sérieux et grave, mais ils ne sont pas déprimés.
Non, il n'y a pas de désespoir.
Ils
non
ne sont
plus,
pas hein. désespérés. Et ça, oui, je trouve que c'est une note qu'on n'a pas tellement, nous, les Français.
Donc c'est au spectateur, en quelque sorte, de combler les interstices, d'une certaine façon. On pourrait dire ça comme ça, Éric Vignier.
Oui. C'est un grand espace de projection de chaque spectateur. Je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que tout n'est pas donné. C'est-à-dire le spectateur, c'est un acteur, c'est le quatrième acteur de la pièce. C'est celui qui va la faire complètement pour lui. Donc ça, c'est très, très intéressant. Mais c'est la dramaturgie de la pièce. Hein. Et c'est pour ça, c'est l'habileté aussi de Lucie Kirkwood d'avoir proposé une chose comme ça.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Théâtre aujourd'hui dans VMDN avec les comédiens Cécile Bruyne qui joue Hazel et Frédéric Pierrot qui joue son mari Robin et le metteur en scène Éric Vignier pour Les Enfants, une pièce de Lucie Kirkwood actuellement au Théâtre de l'Atelier à Paris. Et le troisième personnage, c'est Rose, incarnée par Dominique Valadier. Alors on l'a dit, dans la première partie de la pièce, elle est toute seule avec Hazel. Robin n'est pas encore là. L'atmosphère, on l'a dit, est plutôt fraîche. Et dès que Robin arrive, eh ben on comprend que Rose et Robin ont, disons, une certaine complicité.
Pas d'autres visiteurs aujourd'hui ?
Seulement moi, j'ai fait une grosse frayeur à Hazel d'ailleurs. Elle croyait que j'étais morte.
Ah, Hazel fait tout le temps ça. Hein, prétendre que des gens parfaitement vivants sont morts. Je lui en ai déjà fait la remarque.
Tu n'avais pas entendu la même chose, Robin? À Noël dernier,
non,
peut-être?
Jamais.
Je suis censée être morte comment? Au fait, d'une manière héroïque, j'espère, en éloignant in extremis une poussette des rails ou...
Non. Non, je crois qu'ils ont dit que tu avais été très malade et que tu t'étais un peu rétablie.
Ah, tant mieux.
Et qu'après, tu t'étais tuée.
Bah, allons, Rosie, tu ne t'es pas suicidée?
Non, je crois pas.
Tu en es tout à fait certaine?
Ah, assez certaine.
Bon, tu dis ça, mais fais ah. Bon, oh, si elle est toute belle, cette plante. Mais alors, par contre, une haleine atroce, hein.
Voilà, il rit beaucoup à ce moment-là de la pièce, votre personnage, Frédéric Pierrot. Robin et Rose se paillent un petit peu la tête de Hazel, justement. C'est un moment assez drôle. Vous avez à ce moment-là un ton assez taquin, presque gamin. Est-ce que vous diriez que par certains côtés, Robin est un grand enfant.
Je pense que d'une certaine façon, ils le sont tous. Mais chacun à sa manière. Voilà. Mais oui, certainement.
Alors cette complicité, surtout quand Hazel d'ailleurs n'est pas dans la pièce entre Rose et Romain, on comprend qu'elle vient de loin. On comprend que ces deux-là se connaissent bien, qu'ils se sont bien connus, parfois même peut-être un peu au sens biblique du terme, lorsqu'ils étaient plus jeunes, quand ils travaillaient dans la fameuse centrale nucléaire. Est-ce que c'est pour cela que Rose est revenue? Est-ce en clair le retour de l'amour de jeunesse? C'est l'une des pistes qui interpelle le spectateur. Éric Vigny, est-ce que vous avez pensé creuser cette piste davantage? Alors, pas forcément par le texte, parce que votre marge de manœuvre était relativement réduite, j'imagine, mais peut-être par les gestes, par le comportement, par la façon dont le personnage de Robin tourne autour de Rose et réciproquement.
Moi, je pense que c'est une histoire d'amour. C'est ça qui est important. Je pense que ce sont des gens qui se sont aimés profondément et puis... Ils ont fait d'autres choix à un moment donné. Enfin, Robin a fait d'autres choix. Mais ce qui revient aussi, c'est la question de l'amour à l'intérieur. Et, parce que l'amour et la mort, tout ça est très lié dans cette pièce. Hein, ce qui a l'air comme ça un peu rigolote, un peu amusante. Mais il y a des questions fondamentales qui sont tout le temps évoquées. Par exemple, la peur de la mort. Ça, c'est une chose aussi qui existe très fort dans la pièce. On est dans les sociétés occidentales, donc cette question de la mort, on a toujours voulu l'évacuer, toujours plus de progrès, toujours. Hazel, par exemple, le personnage d'Hazel, il est complètement peureux par rapport au cancer, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, en fait, ce qui nous revient en boomerang dans les années qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on n'a pas réussi à être immortel.
Alors, ce qui peut sembler aussi très important en ce qui concerne le personnage de Rose, c'est son côté étrange, très mystérieux. Alors, que vient-elle faire? Pourquoi est-ce qu'elle reprend contact après des années de silence? Alors, c'est Dominique Valadier, hein, je le disais, qui incarne Rose. Alors, elle a un côté diaphane, presque fantomatique, presque spectral. C'est pour cette raison-là qu'elle reste toujours debout. Elle ne s'assoit jamais dans le spectacle.
Bah, elle n'a pas le temps parce qu'elle est tout le temps sur le départ. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'installer. C'est quelqu'un qui est venu pour partir, finalement. Donc, c'est pour ça qu'elle est tout le temps debout. C'est-à-dire, elle enlève à peine son manteau, elle le remet très vite. À la fin de la pièce, elle est déjà partie, alors que la résolution entre Hazel et Robin n'est pas encore déterminée. Donc, c'est fugitif, en fait, ce passage. C'est un passage.
Spectral, fantomatique, on pourrait dire ça comme ça?
Oui, parce que ce sont aussi des fantômes, parce qu'on peut imaginer aussi qu'ils sont tous morts, hein, dès le début, hein, parce qu'ils sont tous irradiés. Donc, peut-être que c'est pas eux qui reviennent, c'est peut-être des ectoplasmes.
Je sais pas. Voilà, c'est vrai que Rose est assez diaphane. Par contre, Hazel, elle a un côté très, très tellurique. Cécile Brune, je ne sais pas si vous sentez ça comme ça. Elle a les pieds comme ça, bien ancrés dans le sol. On sent qu'elle est... Soit qu'elle est installée, soit qu'elle veut faire croire qu'elle est installée, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, ben c'est intéressant. Oui. Elle est tout aussi mystérieuse que l'autre, en fait. Mais c'est moins apparent. C'est-à-dire que, justement, est-ce qu'elle croit complètement à ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle y croit dur comme fer? Ou est-ce que c'est pas une façon, de, comme je disais tout à l'heure, de se rassurer ou de se convaincre de certaines choses? En tous les cas, il y a énormément de choses qu'elle ne dit pas aussi.
Et en même temps, ce qu'elle ne dit pas est peut-être encore plus parlant que ce qu'elle dit, en quelque sorte. C'est presque une pièce sur le don-dit.
Ça passe
en
souvent,
dit énormément, si je veux dire.
Ça passe souvent par Romain, d'ailleurs, par Ricochet.
Oui.
C'est-à-dire que les interrogations qu'elle peut avoir, ou les soupçons, par exemple, qu'elle peut avoir sur comment se sont-ils retrouvés auparavant avec Rose, elle sait bien sûr qu'ils ont eu une liaison, mais il y a une dimension aussi qui n'est pas dite. Et elle va essayer de le cuisiner un petit peu, puis ça ne marche pas. Donc, oui, voilà.
Voilà. Et Frédéric Pierrot, votre personnage, lui, il a l'air tout de suite beaucoup plus fragile, quoi. On a l'impression que même quand il fanfaronne, bon, on sent qu'il y a en lui quelque chose de cassé, on sent une grande souffrance. Est-ce que c'est par les failles que vous avez abordé le personnage?
Théâtre. De toute façon, c'est même pour ça que j'ai envie d'en faire. Vous comprenez? Je cherche à rien faire, à rien composer. J'adorais quand Dominique disait au début, il ne faut surtout pas jouer cette pièce. Je trouve que c'est absolument vrai. Il ne faut rien jouer. Quand vous dites, Quand vous faisiez remarquer tout à l'heure qu'elle était tout le temps debout, je n'avais pas même remarqué moi-même. Ah oui. Et je me souviens comment Eric a dirigé cette pièce, enfin l'a dirigée sans la diriger justement.
Ah voilà, bah, c'était la question suivante justement. Voilà.
C'est qu'il a laissé des choses se faire tout en étant très observateur et très attentif. Et il se trouve que, je pense, Dominique est resté debout tout le temps. Enfin, je ne me souviens pas qu'elle ne se soit jamais assise.
Le travail de mise en scène, c'est un travail d'observation, Eric Vigny, c'est intéressant, bah, c'est la façon dont Eric Pierrot présente les choses.
Mais oui, parce que quand on a des artistes... en face de soi, on respecte leur travail d'artiste, c'est-à-dire, et on n'a pas besoin de se parler beaucoup. Donc effectivement, il y a quelque chose à la fin qui se résout, c'est-à-dire il y a des positions dans l'espace, il y a des entrées et des sorties, il y a quand même des choses qui sont définies. Mais par exemple, si on prend je me souviens très bien par exemple du parcours de Dominique qui arrive justement à cette station debout à la fin des répétitions. Mais il y a eu des moments d'essai, de place assise, de place dans la porte, de place aux extrémités du plateau. C'est-à-dire qu'elle a essayé beaucoup, beaucoup d'endroits. Et à un moment donné, elle a décidé que la position la plus intéressante pour ce personnage, c'était justement une position instable, c'est-à-dire pas au centre complètement, un peu sur le côté, debout. Et en écoute aussi d'Azel, qui, elle, occupe très souvent le plateau d'une manière... Je dirais, elle s'assoit sur le plateau, oui. elle amène le thé sur le plateau, elle est sur les côtés, etc.
Elle guide la pièce, du reste. C'est toi, oui. Enfin, Cécile qui
conduit.
Qui conduit tout ça.
Voilà. Ouais. Et donc, mais effectivement, oui, moi, je regarde des artistes travailler. C'est-à-dire, moi, mon travail, à partir du moment où ils ont tous les trois décidé de dire oui, je dis, bon, ben voilà... C'est bon, c'est fait déjà. Moi, j'amène le décor et puis on répète un certain temps et puis voilà, ça se fait comme ça.
Amazon de Papaz et leur tube California Dreamin' dans VMDN sur RFI. Alors, on l'entend cette chanson-là dans le spectacle Éric Vigny. Pourquoi celle-ci ?
Déjà parce qu'elle m'émeut, moi, cette chanson. Et puis qu'elle représente finalement la fin d'une utopie, la fin d'un rêve. C'est-à-dire toute cette génération des années 70. C'est déjà dans le titre California Dream. C'est des gens qui rêvent de Californie, mais bon, c'est compliqué. Voilà, donc il pleut, je ne sais pas comment dire dans cette chanson, il y a quelque chose de très nostalgique, de très émouvant. C'est des gens qui ne vont pas au bout, finalement, de leur désir et de leur utopie. Et aujourd'hui, bon, ben voilà, on est un peu...
Donc c'est ça, un peu, c'est une pièce sur la désillusion des boomers, on peut dire ça comme ça, pour employer un terme un peu plus contemporain.
Ah oui, pour cette génération-là, oui, c'est une pièce sur la désillusion des boomers, oui.
C'est la génération des années 70 qui croyait dans le progrès, qui croyait dans l'atome, dans l'amour libre aussi, parce qu'il n'y a pas seulement l'économie et la science, hein. il y a aussi la façon de vivre des hommes et des femmes entre eux.
Oui, c'est tout d'un coup un retour de réalité, un boomerang sur la réalité. C'est-à-dire que justement, la perspective de tout ce que vous avez dit, l'amour libre, l'énergie facile avec les centrales atomiques, le progrès, les voyages, l'argent, tout ça, bon, ben, aujourd'hui, on voit bien que c'est plus compliqué. Donc, c'est des gens qui se rendent compte de ça. Et justement, la proposition de Rose, on ne va pas la dévoiler ici à l'antenne,
non,
mais elle vient faire une proposition pour... peut-être, je ne sais pas, conjurer, rétablir, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une proposition très personnelle qu'elle fait et qui est très étonnante et qui fait réfléchir.
Nouvel extrait de la pièce dans lequel Robin, donc votre personnage, Frédéric Pierrot, fait rouler et ensuite tomber du haut des marches un tricycle.
J'ai sauvé le tricycle de Zouzou.
J'espère que tu l'as lavé au moins.
Oui, enfin, je l'ai testé au compteur Gégère, pas plus de 25. Vous savez quoi, les filles? Vous avez failli me perdre aujourd'hui. Un peu plus, vous retrouviez mes restes sur les galères.
Oh ben non.
C'est un petit jeu que j'ai, Rose. Le chant du haut bord de la falaise. Et tous les ans, j'ai conduit le tracteur un peu plus près du bord. Et tous les ans, le bord se rapproche un peu plus des roues du tracteur.
La côte s'effrite dans le coin, ça fait des siècles.
C'est tout à fait exaltant.
C'est tout à fait imprudent, oui.
Eh ben, à nos âges, il faut être sans peur face à la mort. C'est comme avec les taureaux. Si tu t'enfuis, ils chargent. Non, il faut les attraper par l'encolure, leur foutre le doigt dans l'œil et leur dire « Pas encore, mon pote, j'ai ton numéro, je t'appellerai, forcer leur respect. » Sinon, la mort surgira quand tu auras le dos tourné, tu seras concentré sur tes beaux croisés et elle viendra t'embarquer.
Si tu refuses de grandir, c'est pas la peine de vivre.
Quand même, tu devrais pas faire ça, Robin.
Ben, je lui ai dit, il est fou, c'est la roulette russe.
Seulement quand j'y vais avec de la vodka, précisément. Skol !
Ouais, et elle plane à la mort sur l'ensemble du spectacle et avec elle la menace du nucléaire. Alors le tricycle, Frédéric Pierrot, faites-nous un peu l'exégèse du tricycle, pour employer un grand mot. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé, cet accessoire qui n'est peut-être pas complètement accessoire, justement?
Non. Par quel bout prendre? C'est d'abord un objet... Enfin, très ancien. On a tous eu, je pense, un tricycle, non?
Avant de passer. En tout cas, moi, j'en ai eu un.
Oui,
oui,
moi aussi.
Et celui-là, il est beau, il est rouillé,
il a travaillé, il a vraiment servi, et probablement à plusieurs générations. Donc, comment ne pas le regarder avec une affection constante? C'est vrai qu'à chaque fois, le regarder, c'est les enfants. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Alors, on pense évidemment aux générations futures. Vous parliez de la proposition de Rose il y a un instant, Eric Bigny, on ne va pas en dire plus. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils sont aussi peut-être surpris par les costumes de vos personnages. Parce que les costumes, pour le coup, ils sont aussi très ancrés dans les années 70. Hein, Hazel étant en chemise blanche, basket. Alors les baskets ne sont pas forcément très années 70, pour le coup, on ne va pas citer la marque. Mais bon, pantalon et gilet de jeans bleu. Pour le personnage de Cécile Brune. Frédéric Pierrot, lui, qui joue Robin, il est en pantalon de cuir. Pourquoi ces costumes-là, Éric Vigny, alors qu'on n'est plus dans les années 70, justement, lorsque le dialogue a lieu? En fait, ce sont des gens qui sont restés enfants, qui sont restés dans leur passé.
Ah bah, ils sont restés un peu dans les années 70, oui. Ils sont un peu bloqués, c'est un peu arrêté aux années 70. Vous savez, c'est comme les gens qui vont justement à la campagne, etc., dans les maisons de campagne, puis on a toujours les mêmes vêtements, qui sont des vêtements qui datent de quand on avait 20 ans, 30 ans, et on ne les change pas. Donc c'est des gens qui restent dans leur zone de confort. Et justement, le personnage de Rose est quelqu'un qui a été aux États-Unis, qui a fréquenté d'autres gens, etc., qui a eu d'autres histoires, et qui vient et qui apporte une proposition nouvelle.
Voilà, on va s'arrêter là. Merci, merci beaucoup. Faut pas divulguer la proposition. Merci à tous les trois, Cécile Brune, Frédéric Pierrot, Éric Vigné. Les enfants au théâtre de l'Atelier jusqu'au 27 novembre.
dirait des nouvelles sur RFI.
Décollage immédiat à présent pour la Réunion dans VMDN, la Réunion dans l'océan Indien où se trouve José Marinho. Bonjour José.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
Vous avez les pieds dans l'eau, je crois.
Oui, mais il ne faut pas exagérer parce que déjà, ce n'est pas du luxe, c'est une tradition locale. À ma droite, l'océan, à ma gauche, l'océan, devant et derrière moi, l'océan. Voilà, bienvenue chez vous, bienvenue à la Réunion.
Musique. Et si vous êtes effectivement chez moi, dans cette île de l'océan Indien qui m'a vu naître, eh bien c'est parce que la Réunion vient de vivre, José, 4 jours de fête au rythme des francopholies, déclinaison du mythique festival créé en 1985 en métropole, à La Rochelle, dans l'ouest de l'Hexagone. Un événement retentissant avec des artistes émergents de la Réunion et des têtes d'affiche de la métropole qui a attiré tout de même 20 000 festivalières.
Oui, il a fait le bonheur du public, surtout du plus jeune, le plus jeune public et aussi évidemment celui des commerçants.
Francopholie ? Oui, c'est la folie.
C'est la première fois, mais c'est très impressionnant parce qu'il y a beaucoup de sons. Et ils chantent très bien.
Les francopholies, ils ont quand même une réputation, une notoriété qui n'est pas négligeable. Il y a beaucoup de touristes qui sont arrivés. On le sent qu'il y a beaucoup plus de monde à Salines-les-Bains et sur la commune de Saint-Paul en général. Pour les secteurs concernés, bien sûr que c'est un bel événement.
Voilà, on est donc dans l'ouest de l'île, hein, du côté des plages. Et c'est vrai, José, que ce festival-là, eh bien, c'est l'assurance de retombées économiques non négligeables, en particulier pour l'hôtellerie et la restauration.
Tout à fait, il faut dire que l'affiche était aussi très alléchante, on y reviendra tout à l'heure pour les détails, mais pour entendre la crème des artistes francophones et s'immerger dans un bain de jouvence ultramarine, il a quand même fallu faire 11 heures de vol pour venir jusqu'au cœur de la manifestation à la Salines-les-Bains que vous connaissez bien et c'est là où vous faites bronzette.
Voilà, oui, absolument. Alors, la Salines-les-Bains, c'est l'un des lieux-dits de la commune de Saint-Paul, réputée justement pour ses plages de sable blanc.
Sans oublier, évidemment, le ballet magique des dauphins et des baleines à bosse. Mais ça, c'est une autre musique, Jean-François.
Oui, c'est une autre musique, mais c'est un sacré spectacle. Je le conseille à tous ceux qui passeraient par là-bas. Il y a pire, effectivement, comme cadre, comme vous le faisiez remarquer, José. Mais surtout, vous êtes donc à La Réunion pour tâter le pouls frénétique de cette lointaine France insulaire avec les Francopholies. Les Francopholies, grande marque de festival qui s'exporte à La Réunion depuis 2017.
Exactement, bien que lié aux célèbres Francopholies de La Rochelle. Cet événement entend mieux faire connaître les spécificités culturelles de l'île afin que ces artistes circulent davantage à travers le monde. C'est en tout cas le souhait de son directeur Jérôme Galabert.
Le fait d'attirer les francopholies à nous, c'était quelque part comme de leur déclarer notre flamme et leur démontrer ce que nous étions au sein des francopholies. Pour répondre à un plus grand rapprochement de tout ce qui peut lier les musiques des espaces francophones, pour pouvoir raconter à partir de chez nous les francopholies et montrer que ça n'a jamais été pensé comme un terme réducteur, mais bien au contraire, comme quelque chose qui ouvre, embrasse des musiques de pays qui ont en partage la langue française, mais à travers elle, aussi toutes les langues créolophones, par exemple, ou toutes les autres langues des pays où on a ce français en partage. C'est un objectif clairement culturel. Il est à la fois de satisfaire un public réunionnais qui aime et à la fois de donner une vitrine, une visibilité aux musiques de chez nous, aux autres francopholies. Vous avez vu qu'il y a les francopholies de La Rochelle qui sont présents, les francopholies de Spa, du Luxembourg, qui, au sein de la Confédération des francopholies, œuvrent à la circulation des artistes demain. Pour notre regard, peut-être, sur ce que nous sommes.
Or, seul, l'espoir en nos enfants doit passer par l'école. Construisons des écoles où la terre est au centre. On bâtit nos mariages des enfants dans le ventre. On construit des maisons, mais nos bases sont hors sol.
Et en attendant, la foisonnante scène locale trace sa route. José, c'est le cas de ce groupe Graines Sémées. C'est un peu votre coup de cœur, je crois.
Oui, il est le symbole d'une chanson française prospère. Son chanteur, Carlo De Sacco, avance son équilibre entre poésie rock, sons électroniques et rythme du Maloya.
Les francopholies, ce qui pourrait être un pont avec nous, c'est que notre musique est aussi basée sur le français. Il n'y a pas que du créole réunionnais. Moi, je suis les deux. Mes parents sont arrivés il y a 55 ans à La Réunion. Ils m'ont élevé ici et je parle créole avec mes amis toute la journée. Et quand je rentrais, je parlais français. Mon père, il est italien. Et ma mère, c'était une grande littéraire. Et du coup, voilà, j'ai eu un peu ces deux bagages-là. C'est-à-dire que nous, on essaye de trouver le pont entre la culture réunionnaise et la culture française, la chanson réunionnaise et la chanson française. J'essaye de mêler les deux parce que pendant souvent, il y a eu un clivage. C'est normal par rapport à l'histoire de la Réunion, qui est l'histoire de l'esclavage. Donc il y avait un clivage français-créole. Et nous, avec Graines Sémées, on a cassé ces frontières-là. On a dit, OK, ça fait chier tout le monde, alors OK, on va le faire. On va parler en français sur le Maloya et on va parler en créole sur des choses un peu plus pop. Et voilà, et on va tout mélanger, en fait, et on va être nous-mêmes. Et nous, on est mélangés. On est la bâtard-cité, tu vois, cité des bâtards.
C'est pas les profs qui te bloquent, c'est pas le temps qui te bloque, mais c'est toi-même qui te bloque. Arrête le temps, va, tout s'en va comme Léo Ferré. Prison intérieure, trop de frères incarcérés. L'innommable est nommé, mais c'est nous qui sommes décriés. À la base du désordre, on se plaint du manque d'unité. Trop de tomes à fleurir, trop de frères à fleurir. Trop longtemps, coupable d'être innocent. Verbalement, t'as déjà fait trop de victimes. Mais dites-moi donc, qui du mal est à l'origine.
Et cette cinquième édition des Francofolies de La Réunion a vibré surtout avec la venue, José, de deux superstars du rap et du slam, Aurel San et Abdelmalik.
Abdelmalik, slammer majuscule depuis près de 20 ans, très attendu, artiste complet, auteur, compositeur, écrivain et réalisateur, son art est celui du dialogue. En cette période trouble dans le monde, ce citoyen investi est venu à La Réunion faire souffler les mots de la révolte, de la fraternité et de la paix.
Il y a une vraie symbolique de venir jouer ici à La Réunion pour plein de raisons, parce que ça concentre plein de choses, à la fois des problématiques et des espérances de l'histoire de France et d'Europe, j'ai envie de dire. Pour moi, être là, pouvoir jouer là et puis venir ici, rencontrer, les locaux réels, pouvoir échanger avec eux, parler avec eux de ce qui les rend heureux, de ce qui les rend tristes. Pour moi, c'est hyper important parce qu'on est à un moment très particulier dans notre pays, en France. On est à un moment très particulier en Europe et dans le monde. C'est des questions qui sont liées à l'identité et des questions qui sont liées au fait comment, avec nos différences, on va réussir tous ensemble à faire peuple, à faire monde. Et comment on va comprendre, encore une fois, qu'être français, européen, ce n'est pas une couleur de peau ou une religion, mais c'est le fait d'adhérer à des valeurs pratiques dans la vie, dans le quotidien. Et qu'on puisse remettre au centre des mots comme solidarité, empathie, partage, peuple dans sa richesse, dans sa diversité, dans sa complexité.
Ce monde est une tombe, chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe, chacun se fume façon beuh, qu'est-ce que tu veux. Ce monde est une tombe, chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe.
C'est comme ça,
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 c'est comme ça.
Comme si le rap était la musique des opprimés. Comme si je puisse aller pas pour des billets. Comme si nous n'étions plus des dealers. Comme si personne se jetait à la peur. Comme si personne n'était traité de singe. Comme si la bêtise allait enfin s'éteindre. Comme si le mal et le bien se confondent. Comme si assassin n'était pas la honte.
La cinquième édition des Francofolies de La Réunion avec José Marigno pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI, demain cinéma, avec le film Novembre qui raconte la traque des terroristes responsables des attentats du 13 novembre 2015 en France. Avec nous le réalisateur Cédric Jiménez et le scénariste Olivier Demangel. Le film sort mercredi dans deux jours, donc sur les écrans français. Et vous m'en direz des nouvelles.
Comme si c'était fini.